grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse en direct ou en podcast. Homo sapiens est bien sûr capable des pires choses, mais également de merveilleuses prouesses. Couvrir les plafonds de la chapelle Sixtine des chefs-d'œuvre de Michel-Ange, produire des opéras de Mozart ou des chansons des Beatles, inventer des vaccins qui sauvent des vies, marcher sur la lune, courir un marathon, danser à la perfection, cuisiner des mets merveilleux, construire des objets beaux et ingénieux, simples ou sophistiqués, de la roue au smartphone. Et pourtant, l'homme qui se considère comme l'espèce la plus évoluée du règne animal est doté d'un nombre impressionnant d'anomalies, de dysfonctionnements et de défauts de conception. Qu'il s'agisse de nos yeux, de notre cou, de nos os, de notre ADN, de notre dos, de nos sinus, de notre système reproducteur, de notre bipédie ou encore de notre régime alimentaire, notre corps n'est pas la machine bien huilée que l'on croit, bien au contraire. Vous comprendrez par exemple pourquoi nous sommes plus sujets au rhume que les chiens ou les chats, plus exposés au risque de fausse route quand nous mangeons un bretzel par exemple, ou encore plus sensibles à la rupture des ligaments croisés, tant redoutés par les sportifs. Vous saurez également pourquoi les spermatozoïdes tournent toujours à droite et réduisent grandement nos chances de nous reproduire. Pour nous éclairer sur quelques défauts de conception et bizarreries de notre corps, le biologiste américain Nathan Lenz et le médecin et chercheur Luc Perrineau, et bien sûr, comme tous les lundis, Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Nous attendons toutes vos questions et réactions ce matin au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Aline.
Au corps parfait, hein. Il n'y a pas de défaut chez
évidemment,
vous. Hein
évidemment.
Médecin, écrivain, l'auteur du blog Alors Voilà, qui réconcilie les soignants et les patients. Chaque lundi, dans votre chronique, vous nous racontez une médecine à visage humain.
Aujourd'hui, je vais vous parler du visage de Marie, un sujet un peu tabou, et je suis content de porter la voix de toutes les Maries de France.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Et ce matin, on explore quelques défauts de conception et petites bizarreries du corps humain en compagnie de deux invités. Hello, Nathan Lenz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de biologie au John Jay College de New York, spécialisé en génétique. Et vous êtes l'auteur d'un blog sur l'évolution humaine. Et on vous reçoit ce matin pour votre nouveau livre chez Larousse, un livre passionnant, Les spermatozoïdes tournent toujours à droite et autres bizarreries du corps humain. Bonjour Luc Perrineau.
Bonjour.
Vous êtes médecin, vous avez créé le premier diplôme universitaire européen, biologie de l'évolution et médecine. Et vous publiez chez First, Darwin et les sciences de l'évolution pour les nuls. En quelques mots très simples, c'est quoi l'évolution ?
Eh bien, ça veut dire que la vie évolue en permanence, elle n'est pas comme au premier jour de la création. Et donc, le maître mot de l'évolution, c'est la variabilité. C'est parce que nous sommes tous différents et variables que nous pouvons évoluer.
Alors, Nathan Lenz, dans votre livre, vous nous racontez l'imperfection de l'homme, nous autres humains qui nous considérons comme l'espèce la plus évoluée. Et pourtant, notre corps est loin d'être une machine bien huilée.
Well, that's exactly right. And,
oui, tout à fait.
The main point here is that evolution does not
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'évolution ne vise pas à la perfection. Parfois, elle aboutit à la perfection. La perfection ne pouvait pas exister initialement. Gardez à l'esprit que les êtres humains sont loin d'être les êtres les plus évolués ou les plus parfaits. Notre seule compétence qui nous distingue, c'est la taille énorme de nos cerveaux, nos capacités cognitives. Et d'une certaine manière, cela a empiré la condition de notre corps, car nous dépendons de notre cerveau pour contourner la plupart des problèmes que règlent les animaux avec leur corps.
Nous sommes, vous l'écrivez, l'espèce qui regroupe le plus grand nombre d'anomalies, de dysfonctionnements et de défauts de conception. Et vous écrivez même que l'anatomie humaine est un salmigondi maladroit d'adaptation et d'inadaptation.
Well,
ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'objectif de mon livre, ce n'est pas dire que notre corps est terrible, maladroit, laid, non. Mais notre corps a un passé. Et ce passé a façonné notre corps de différentes manières. Et parfois, ce n'est pas pour le meilleur. En effet, nous avons grandi, notre structure sociale nous a permis de développer un cerveau plus grand et cela a relâché la pression qui pesait sur notre corps. Nous n'avons plus besoin d'être parfaits. Imaginez un instant une gazelle. un ours, un aigle, ces animaux doivent être au top de leur forme. Leur corps doit être parfait. Mais nous, les êtres humains, nous dépendons, nous nous entraidons. Chacun d'entre nous est bon pour dans un domaine ou un autre. Comme mon collègue vient de le dire, il y a beaucoup de diversité au sein de la population. Et cela permet à tout un chacun d'être imparfait de nombreuses manières et de survivre néanmoins, de réussir, de procréer une progéniture. Donc, je pense que c'est une histoire heureuse, en fin de compte. Il ne s'agit pas de se lamenter ou d'avoir des regrets, mais le fait est que nous ne sommes pas obligés d'être parfaits. Je pense que c'est une bonne chose. Personnellement, moi, je suis bien content de ne pas avoir un corps parfait pour être un membre précieux de la société.
Et ces imperfections anatomiques sont des cicatrices qui témoignent des batailles remportées dans le cadre de notre lutte pour notre survie.
Yeah, exactly right. And
oui, tout
we've
à fait.
Gone through several transitions
nous avons
in how we live.
Opéré un certain nombre de transitions dans nos modes de vie.
Usually we think of
généralement,
fossils and,
nous envisageons, lorsque nous pensons aux fossiles, par exemple, ce sont des preuves qui nous permettent de retracer notre passé. Mais ce que je dit dans mon livre, c'est que nous pouvons nous pencher sur notre passé en observant nos corps tels qu'ils sont aujourd'hui. Car les cicatrices de ces victoires que nous avons remportées, nous pouvons encore les observer aujourd'hui dans notre génome, dans notre anatomie, dans notre physiologie. Et il y a des anecdotes extrêmement intéressantes à raconter qui sont des histoires assez heureuses et qui montrent comment nous avons pu surmonter certaines épreuves. Nous avons été confrontés à des épreuves et nous les avons surmontées grâce à notre cerveau en faisant preuve de compassion, en trouvant différentes manières de survivre dans différents climats. Nous sommes de grands généralistes devant l'éternel, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des experts en tel ou tel domaine. Nous avons des capacités dans différents domaines, ce qui est un énorme avantage aujourd'hui.
Luc Perrineau, ce sont les aléas de l'évolution et de la sélection naturelle qui expliquent tous ces défauts et toutes ces imperfections de notre corps humain.
Bien sûr, la sélection et l'évolution, c'est du bricolage en permanence. C'est toujours du bricolage. Quelque chose a été utile, un bricolage a été utile une première fois, et comme on ne peut pas faire marche arrière, ce bricolage existe, eh bien, on rafistole au fur et à mesure pour que ça marche, pour que ça fonctionne, parce que l'essentiel, c'est justement la survie. Donc si on a pu survivre parce que l'on avait telle conformation, eh bien, on va continuer comme ça, et cette conformation n'est pas toujours parfaite, mais on l'adapte en permanence.
Et Nathan Lenz, vous écrivez que toutes ces imperfections sont dotées d'une certaine beauté.
Yes, exactly right. And they teach
absolument.
Us that evolution is not
ce que cela nous apprend, c'est que l'évolution n'est pas linéaire. Ce n'est pas une quête vers la perfection. Parfois, nous prenons des raccourcis, des détours. Nous pouvons évoluer de telle ou telle manière et ensuite revenir en arrière. Il n'y a pas d'objectif ultime. Nous ne sommes pas en train d'évoluer vers un objectif ultime. Et à vrai dire, si on remonte à il y a 10 millions d'années, rien ne nous disait à l'époque que nous allions en arriver là où nous en sommes aujourd'hui.
Ce qui
semble être constant, ce sont nos capacités cognitives. Notre cerveau a vu sa taille augmenter et cela nous a permis de faire un véritable bond en avant.
Mais
cela a eu un certain nombre d'implications. En effet, nous sommes très mauvais dans le domaine de la procréation, notamment en raison de la taille énorme de ce cerveau et en raison de l'étroitesse de notre bassin. D'une certaine manière, c'est comme si vous tiriez des deux côtés d'une corde, c'est-à-dire que nous avons besoin de bassins étroits pour pouvoir marcher droit, et non pas de manière chaloupée, mais nous avons des cerveaux énormes. Ça, c'est un exemple parmi d'autres qui montre que l'évolution, c'est une question de compromis. Vous devez faire des arbitrages, trouver le juste milieu. Et pour ce qui est de l'accouchement, le compromis, c'est que nous naissons de manière prématurée. Les êtres humains de toutes les espèces sont les espèces de mammifères les plus dépendants. Nous dépendons énormément de nos parents, car lorsque nous venons au monde, eh bien nous sommes impuissants, car nous sommes tous prématurés.
Luc Perrineau, l'évolution, c'est une question de compromis ?
Alors, il est très important, comme Nathan l'a dit, qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de projet dans l'évolution. Ce n'est pas parce que quelque chose est bien que c'est adopté par la vie, c'est parce que quelque chose a que les personnes ont survécu, que l'on constate que c'était bien. Il n'y a pas d'a priori dans l'évolution, il n'y a que des a posteriori. il a survécu, donc ça devait être bien. Mais c'est pas parce que je décide avant que c'est bien que ça va se produire. Donc c'est pour ça que c'est toujours des bricolages qui se rajoutent, comme on le disait.
Alors j'aimerais prendre un exemple très concret d'imperfection de notre corps, notre œil. C'est un organe très imparfait, Luc Perrineau. Le physicien von Helmholtz disait de cette imperfection de l'œil, si un opticien m'avait vendu un instrument avec autant de défauts, je me sentirais en droit de le lui renvoyer.
Exactement, c'est von Helmholtz qui a dit ça, il était physicien. Et cette histoire de l'œil est particulièrement passionnante parce que c'est sur la perfection supposée de l'œil que les premiers critiques de Darwin l'ont attaqué. On a dit à Darwin, mais c'est pas possible ce que vous dites. Un organe, donc vous parlez d'évolution et du bricolage, un organe aussi parfait que l'œil ne peut avoir été créé que par une intelligence supérieure, sous-entendu, qui vous pensez. Hein. Et Darwin était très embêté avec cet argument. Il disait effectivement quand même l'aile de la colombe, la perfection de l'œil avec son diaphragme, c'est fabuleux, qui voit les couleurs, c'est extraordinaire. Comment cela peut-il avoir été réalisé par des bricolages successifs et des adaptations successives? Et longtemps après la mort de Darwin, il a été largement prouvé que l'on peut fabriquer un œil avec des bricolages. Et le plus amusant de tout, c'est que l'œil, il est bourré d'imperfections. Je voudrais insister là-dessus. La rétine est montée à l'envers, les nerfs sortent devant. Les vaisseaux sont du mauvais côté, ce qui nous oblige à faire des saccades en permanence pour voir clair. Et comme il y a cette tache aveugle par laquelle passe le nerf optique, tache aveugle, comme son nom l'indique, par laquelle on ne voit rien, il y a à côté une condensation de cônes et de bâtonnets qui est dans la macula. Et cette macula est donc relativement peu innervée, puisqu'elle a trop de cônes et de bâtonnets. C'est pour ça qu'elle vieillit plus vite que le reste de l'œil. Comme vous le savez, on parle de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Tout ça parce qu'au départ, les nerfs qui sont partis d'une cellule sensible à la lumière se sont trouvés du mauvais côté.
Nathan Lenz, sur l'imperfection de notre œil humain.
Well, if anyone wants to claim that the eye is perfect,
si d'aucuns souhaitent prétendre que l'œil est parfait, comment se fait-il que 50% de la population en Europe ou en Asie ait besoin de lunettes pour faire le point? Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'évidence pour parler de l'imperfection de l'œil. Et sachez qu'en Asie, c'est 70% de la population qui a besoin de lunettes. Donc si la plupart des habitants sur la planète ont besoin de lunettes, il est assez difficile de maintenir que l'œil est parfait. Et d'autre part, à mesure que nous vieillissons, à 50 ans, mais ça commence à 40 ans, la quasi-totalité de la population a besoin de lunettes pour lire. Et c'est généralement inéluctable. On peut, bien entendu, utiliser des opérations au laser pour l'hypermétropie, par exemple, mais pour ce qui est du besoin de lunettes pour lire, il n'y a aucun traitement disponible. Et je pense que c'est une histoire intéressante dans notre évolution. Si nous passions plus de temps à l'extérieur, et ça, ce sont des données qui ont été recueillies récemment, si vous passez davantage de temps à l'extérieur lors de votre enfance, vous aurez moins de risques de devoir porter des lunettes. Et des études ont été réalisées dans 3 pays. Donc nous savons que nous dépendons des lunettes en raison de nos modes de vie modernes. Nous passons beaucoup de temps à l'intérieur, ce qui signifie que nous ne nous concentrons pas sur des objets qui sont loin de nous. Des études ont été réalisées avec des personnes qui passent beaucoup de temps à l'extérieur et ces personnes ont beaucoup moins besoin de lunettes. En tout cas, nous avons plus besoin de lunettes que les aigles.
On est de plus en plus myopes en fait. Et il faudrait effectivement être à l'extérieur pour éviter d'être myope. Mais pour la presbytie, là, c'est un peu plus compliqué.
Luc Perrineau.
Alors, il y a un facteur intéressant sur la myopie, c'est qu'on peut supposer, qu'elle est arrivée avec l'écriture et la lecture, donc à partir du moment où il fallait accommoder de près. Et fort heureusement, à ce moment-là, on n'avait pas besoin pour survivre d'être un excellent chasseur et de voir de très loin. Et il y a aussi une autre chose très importante dans la myopie, dans l'évolution récente de la myopie, qui est un peu moins connue. C'est l'excès de consommation de sucre qui stimule un facteur de croissance et qui change la croissance de l'œil et du globe oculaire et qui fait que le nombre de myopes est en augmentation constante. Et le sucre est probablement responsable de plus de la moitié des myopies.
Allez, dans quelques instants, vous verrez pourquoi le défaut de conception des sinus entraîne plus de rhumes chez les humains que chez les chiens ou les chats. Merci à la traduction ce matin de Jean Mispelblom. Beyer, nous attendons toutes vos questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Laura Laplot. À la réalisation, Stéphanie Texier.
Près des gens qui aiment l'amour, comme je l'ai. qui sera l'homme que j'aime.
Véronique Sanson, comme je l'imagine.
Vous êtes le docteur qui d'abord ?
Grand bien vous fasse.
Ah non, moi je suis pas docteur.
C'est un grand malade.
Mais justement, c'est pour ça que je suis là, parce que je suis très malade.
Sur France Inter.
10h24 et on explore ce matin quelques bizarreries et défauts de conception du corps humain.
À tes souhaits.
Merci.
Est-ce que tu te sens bien, Dot ?
Moi, je...
Tu es une pro du mouchoir.
Ah, on dirait que tu es malade, ma chérie.
Malade ? Non, je vais bien, je me suis jamais sentie mieux. C'est juste un tout petit atchoum de bonheur. Atchoum ! Ouais.
Tu as l'air très enrhumée.
Qui est enrhumée ? Pas moi. Atchoum !
Dot, tu as attrapé froid ?
Non.
Et tu es probablement contagieuse.
Avec nous ce matin, le biologiste américain Nathan Ashlens et le médecin évolutionniste Luc Perrineau. Nous explorons quelques bizarreries et défauts de conception hérités de l'évolution. Pourquoi attrapons-nous autant de rhumes tous les ans ? Eh ben, l'une des explications tient peut-être au défaut de conception de nos sinus. Nathan Lens, il s'agit d'un défaut de plomberie.
Yes, that's right. In we have these sinus cavities
in our head. Oui, exactement. Nous avons des fosses nasales sur notre visage. Nous inspirons l'air et l'air apporte du mucus. Donc les cavités nasales sont couvertes de mucus et ce mucus doit s'écouler. Et il s'écoule lentement afin de piéger toutes les particules, tous les allergènes, toute la poussière pour que tout cela se retrouve ensuite dans notre gorge. Et bien, dans la plus grande cavité, derrière nos pommettes, vous avez les sinus maxillaires. Et dans ces cavités nasales, le système d'écoulement ne se trouve pas à la base de la cavité, mais au sommet de la cavité. Ce qui signifie que vos cils, c'est un peu comme des poils, ces cils doivent faire écouler le mucus vers le haut, vers le tuyau d'écoulement. Et la plupart du temps, les cils parviennent à le faire. Mais il n'en faut pas beaucoup pour que ce système se ralentisse et pour que l'écoulement ralentisse en raison des bactéries, en raison de la poussière. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un engorgement, le mucus s'accumule à la base de la cavité nasale. D'autre part, le tuyau d'écoulement, ce tuyau d'écoulement est extrêmement étroit par rapport à d'autres espèces. Et le fait que le conduit soit si étroit fait qu'il s'engorge très facilement. Et une fois que vous avez un engorgement, le mucus cesse de s'écouler. Et là, vous devenez vulnérable aux infections. Prenez l'exemple de nos animaux de compagnie, les chiens. Même le bétail, et il y a une densité démographique importante, le bétail ou les chats ne sont pas aussi vulnérables aux rhumes que nous. Quel est notre problème ? Eh bien, c'est un problème de conception des cavités nasales.
Luc Perrineau.
Alors, c'est confirmé par le fait que si on veut soulager partiellement la sinusite, c'est conseillé de se prendre une position de quadrupède ou de se coucher à plat ventre avec la tête un peu plus bas. Ça soulage un petit peu la pression des sinus.
Alors, Nathan Lens, autre bizarrerie du corps humain, le cou. Notre cou est très mal protégé hein, par rapport au cerveau, au cœur ou au poumon. C'est une partie du corps très vulnérable. Notre gorge est mal conçue car elle achemine à la fois l'air et les aliments. Un seul tuyau.
Yeah, and it really shows how... Oui.
Cela montre que l'évolution ne peut qu'apporter des modifications légères au corps que nous avons aujourd'hui. Si nous souhaitions reconcevoir de fond en comble notre corps, notre cou, avec des mutations légères, il n'est pas possible de le faire. En effet, l'évolution fonctionne par étapes et chaque étape doit être une amélioration. Elle doit être avantageuse, faute de quoi elle ne surviendra pas. Donc s'il est possible de modifier légèrement le coup avec de petites étapes, de petites mutations qui soient avantageuses, ce serait formidable. Donc ce que nous avons fait, c'est nous avons fait de notre mieux avec le coup dont nous disposons, mais il serait possible de mieux concevoir le coup. Prenons l'exemple d'un animal qui ne s'étouffe jamais, le dauphin. Les oiseaux, pourquoi? Car ils ne mélangent pas la nourriture et l'air. Les dauphins utilisent leurs évents sur le cou et sur leur dos, cela a beaucoup plus de sens. Donc vous avez deux conduits qui sont tout à fait distincts. Lorsque nous, pendant la déglutition, par exemple, eh bien, nous respirons en même temps. Donc vous avez l'air et la nourriture qui doivent passer par le même conduit, même s'ils parviennent à deux destinations différentes. Donc l'étouffement, c'est un véritable risque, notamment chez les jeunes. Lorsque vous êtes jeune, eh bien, le conduit est extrêmement fin. Il est à vrai dire assez étrange que nous survivions à l'âge adulte.
Et ça s'appelle une fausse route, et on se souvient du fameux bretzel de George Bush Jr. qui avait mal avalé un bretzel et qui a failli s'étouffer. Vous en souvenez, Nathan Lens?
I do, unfortunately.
Oui, je m'en souviens. Malheureusement, il a survécu.
Bah, dis donc, Baptiste Beaulieu, vous avez beaucoup de fausses routes. Vous étiez urgentiste il y a quelques années. C'est un motif de consultation assez fréquent, hein, les fausses routes.
Oui, c'est vrai que c'est toujours... Alors, chez la personne âgée, c'est compréhensible, notamment à cause des nombreux médicaments qu'ils prennent. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé parfois de partir avec le SAMU sur des interventions chez des enfants. Mmh. Et c'est toujours... C'est la peur ultime. C'est la frayeur ultime.
Moi, c'est une des premières façons de mourir en maison de retraite, la fausse route.
Aussi. Et moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Nathan Lens. Et il m'a occasionné une vraie blessure narcissique, je dois dire, parce que quand je réfléchissais un petit peu, on a d'abord eu Galilée qui a dit c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Après, il y a Darwin qui vient nous dire l'homme descend du singe, donc nouvelle blessure narcissique. Après, on a Freud qui vient nous dire que l'essentiel nos actions répondent à des déterminismes inconscients. Et puis le livre de Nathan Lens qui vient me dire que, la machine humaine que je pensais parfaite, elle est vraiment mal foutue, quoi. Nos yeux sont ratés, nos genoux sont ratés, notre tractus digestif, il est raté, il n'est pas capable d'absorber tous les nutriments qu'on ingère. L'essentiel de nos gènes ne sert à rien. Alors, quelle sera la prochaine blessure narcissique qu'on va m'infliger?
Alors...
Nathan Lens.
Well, I think it's an important message that humans are not the center of creation.
Alors, les êtres humains ne sont pas au cœur de la création, il faut le rappeler.
Luc Perrineau. Je voulais faire un peu l'avocat du diable. L'ensemble fonctionne pas trop mal quand même. Hein. L'ensemble fonctionne pas trop mal. On s'est bien reproduit, on a bien peuplé la Terre et on fait des choses pas trop mal. Et puis j'insiste aussi sur un autre point. Je pense que tous les animaux, quels qu'ils soient, sont tous aussi mal foutus. Mais celui qu'on a tendance à étudier le plus, c'est l'homme. Je ne sais pas pourquoi on s'intéresse autant à l'étude de l'homme, mais si on regarde la tortue ou l'escargot, ils ont beaucoup de difficultés aussi pour faire certaines choses.
No, that's absolutely right. And the one thing that we really pride ourselves on.
D'ailleurs, on a tendance à être très fiers de notre cerveau. Nous pensons être au sommet de l'échelle de l'évolution. Mais regardez la planète aujourd'hui. Tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, ils sont de notre fait. Nous sommes responsables de la plupart de ces problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je pense que d'ici un siècle, nous aurons la réponse. Est-ce que notre cerveau le meilleur résultat de l'adaptation ou est-ce que c'est notre principal défaut? Je ne sais pas encore.
J'aimerais qu'on revienne un petit instant à notre gorge. Pourquoi est-ce que notre gorge s'est raccourcie au cours de l'évolution? Est-ce qu'on a des explications
C'est le larynx.
Well, for one reason, we've gotten taller.
Eh bien, tout d'abord, notre taille a augmenté. Nous sommes les êtres les plus grands si on se compare à nos aïeux. Donc, à mesure que la taille a augmenté, nous avons rétréci notre taille, par exemple. Le principal problème avec la gorge, en tout cas chez les humains par rapport à d'autres singes, c'est que notre larynx, notre boîte vocale, c'est hisser plus haut dans la gorge. Cela nous a permis de vocaliser certains sons, les voyelles par exemple. Donc la boîte vocale nous permet d'émettre des sons que la plupart des animaux ne peuvent pas émettre. Nous l'utilisons pour produire des sons. C'est ça qui nous permet notamment de prononcer les voyelles. Pour ce faire, nous avons dû hisser le larynx plus haut, ce qui a compliqué la déglutition. Voilà pourquoi nous avons tendance à nous étouffer davantage.
Alors j'aimerais qu'on s'intéresse à la bipédie, qui pose bien des problèmes. Luc Perrino, quand les premiers australopithèques se sont mis debout, ils en ont tiré évidemment des avantages, mais il y a eu un prix à payer que nous continuons à payer 4 millions d'années après. Hein.
Exactement, en 4-5 millions d'années, on n'a pas réussi à résoudre tous les problèmes liés à la bipédie.
C'est quoi les grands problèmes ?
Alors, si on fait la liste des maladies qui sont dues directement ou indirectement à la bipédie, il y en a beaucoup. Donc à l'arthrose des hanches et des genoux, bien sûr, toutes les hernies, le prolapsus de l'utérus chez la femme, les phlébites, les embolies pulmonaires, les phlébites parce que on est debout, donc les veines se dilatent.
Des maladies cardiovasculaires.
Les maladies cardiovasculaires. Pourquoi ? Parce que comme on est debout, le cœur a besoin de pomper plus fort, donc ça dilate un peu les oreillettes. Donc les oreillettes dilatées, ça va détruire le système nerveux qui règle le rythme, et ça va créer l'arythmie par fibrillation auriculaire, qui va créer des caillots qui vont aller dans le cerveau, donc les AVC, les infarctus. On peut rajouter la sinusite, on en a parlé.
On aurait dû rester à quatre pattes.
La scoliose. En tout cas, non. Alors voilà, c'est un bon exemple pour redire ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça a été un tel avantage d'être debout qu'on a gardé ça. Hein, voilà, tous les prix à payer, c'est pas grave. On le paye encore 4 millions après, mais on peut pas perdre cet avantage.
Nathan Lenz, nous ne sommes pas complètement adaptés à la marche debout.
Well, and my colleague said it very well.
Comme l'a très bien dit mon collègue, nous tenir sur nos deux jambes nous a donné beaucoup d'avantages. Moi, je ne souhaiterais pas que nous marchions à quatre pattes de nouveau. Le problème, c'est que nous nous sommes adaptés trop vite. La transition entre le fait de marcher à quatre pattes et la bipédie, cette transition a pris 15 minutes à l'aune de l'évolution. Et ce que vous faites vite, vous le faites généralement mal. Donc, prenez l'exemple du dos d'un chimpanzé, par exemple. C'est en forme de G. Nous, lorsque nous nous sommes levés, il aurait fallu que notre dos soit droit. Mais au lieu de ça, nous avons une courbe. Notre dos est incurvé. Et ce sont autant de points vulnérables. Voilà pourquoi les hernies discales, par exemple, les disques de cartilage peuvent se disloquer. Ce sont des disques entre chaque vertèbre. Et ces disques peuvent se disloquer à tous ces points faibles. D'ailleurs, sachez que les singes ne souffre pas de hernie discale. Aucun vétérinaire n'a jamais diagnostiqué de hernie discale chez les chimpanzés, alors que nous avons tous des proches qui ont déjà eu des hernies discales.
Nathan Lenz, prenons l'exemple des ligaments antérieurs croisés. Pourquoi la rupture de ces ligaments est-elle très fréquente chez notamment de nombreux sportifs ? C'est encore lié évidemment à des fautes de conception de notre anatomie ?
Yes, absolutely. The ACL is a ligament.
Ce ligament croisé maintient le haut et le bas de la jambe. Et ce ligament est mis à rude épreuve lorsque nous nous tenons debout. Lorsque nous étions à quatre pattes, nos jambes étaient bien plus fléchies et le poids de notre corps était réparti sur quatre membres, principalement par les muscles, car les articulations étaient fléchies. Mais ensuite, nous nous sommes levés, nous avons dû raidir nos jambes et ce sont les ligaments qui sont mis à rude épreuve, bien plus que les muscles. La plupart du temps, cela ne pose pas de problème. Et lorsque vous faites un virage radical, lorsque vous modifiez votre poids, ce ne sont pas les muscles qui soutiennent le fardeau, c'est ce ligament, un ligament qui est minuscule, et ce ligament doit supporter tout ce fardeau. L'autre problème avec le ligament croisé, c'est qu'il n'est pas possible de le renforcer. Il n'est pas possible de faire des exercices ou des étirements pour renforcer votre ligament croisé. Vous devez faire avec ce que vous avez. D'autre part, notre gabarit a augmenté, notamment récemment, et notamment les sportifs. Ils ont un gabarit de plus en plus grand, et le ligament a eu du mal à suivre le rythme. Donc ce ligament, encore une fois, doit supporter un poids très important.
Luc Perrino, est-ce que l'évolution à l'avenir modifiera, corrigera cette inadaptation humaine à la marche ?
Alors, il y a une idée absolument fausse. C'est de considérer que l'homme n'évolue plus sous prétexte qu'il a remplacé plein de ses défauts par de la technologie. Ça, c'est l'idée la plus stupide qui soit. L'évolution continue, et j'allais dire, elle continue même à plus vive allure, sans doute, que dans le passé, parce que il y a tous les processus qui ne sont pas génétiques, mais qui sont au-delà du gène. On parle d'épigénétique, on parle aussi de plasticité phénotypique. Et plus l'environnement est contraignant et rapidement changeant, ce qui est notre cas, plus on a des processus d'adaptation qui sont plus rapides que les processus génétiques. C'est ce qu'on appelle la plasticité phénotypique, entre autres. Alors, c'est un mot savant, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ça va plus vite que le gène, quoi, en gros.
Nathan Lenz, j'ai appris en lisant votre livre que nous avons trop d'os. Comment expliquer cet excédent dans les chevilles, par exemple?
Well, the ankle is,
pour ce qui est de la cheville, nous l'avons hérité d'une structure radicalement différente. Nous avons pris un amas d'os qui s'acquittait de fonctions chez nos ancêtres et nous en avons fait notre cheville pour la bipédie. Et c'est quelque chose que l'on observe dans la nature. Prenez l'exemple des dauphins. Les dauphins ont les reliquats de certains membres, mais ils ne peuvent pas les fléchir. L'évolution ne supprime pas les membres inutiles, sauf s'ils sont problématiques. Pour ce qui est de notre cheville, les os eux-mêmes sont redondants. Ils sont rigides, ils ne peuvent pas bouger les uns par rapport aux autres. Mais cela ne va pas vous tuer, n'est-ce pas? L'évolution agit lorsqu'il y a un véritable désavantage. Par exemple, si la population meurt en raison de l'excès d'eau. Donc, dès lors que cela ne vous pose pas problème, ça ne part pas.
Luc Perrineau, sur l'excédent d'eau.
Sur l'excédent d'eau.
Des os.
Des os, ah, pardon, excusez-moi. Ah oui, bah c'est une anomalie anatomique. Enfin, c'est pas une anomalie, c'est un arrangement anatomique qui s'est fait. Voilà, c'est un arrangement, hein, clairement. Mais je voulais revenir sur quelque chose d'important. Nathan parle dans son livre de notre très faible fertilité.
On va y revenir tout à l'heure.
Ah oui, tout à l'heure. Je voulais parler de la socialisation et du langage. Mais
on va y revenir tout à l'heure. Juste une question fondamentale ce matin. Le coccyx, il sert à quoi à part nous faire mal quand nous tombons dessus? Il sert à quoi le coccyx?
It does no good whatsoever.
Non, le coccyx ne sert à rien. Et nous le savons, car les patients qui ont une ablation du coccyx, coccyxectomie, ces patients n'ont aucun effet secondaire. Ils n'ont pas de difficulté à s'asseoir, à se tenir debout, à aller aux toilettes. Non. Le plus intéressant avec le coccyx, selon moi, c'est que nous avons donc 3 ou 4 os dont nous n'avons pas besoin, et il y a également des muscles qui y sont attachés. Voilà, je veux revenir, nous n'avons pas de queue, mais si nous avions une queue, nous avons les muscles nécessaires pour la fléchir, pour la plier.
Allez, il est l'heure de retrouver la chronique de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Ouais, apparemment, je suis venu un peu tôt. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, tous les lundis dans votre chronique. Alors voilà, vous nous racontez une médecine à visage humain.
Et oui, Ali, aujourd'hui, je veux vous parler du visage de Marie. Marie est une femme, elle a la soixantaine et elle est grand-mère. Mais surtout, Marie, elle boit. Beaucoup. Ses amis ne le savent pas, elle ment à tout le monde, tout le temps. Même ivre morte, Marie soutient que non, elle n'a aucun problème avec l'alcool. Mais alors, pourquoi tu refuses d'aller chez le médecin, Marie, hein? Tu sais qu'il pourrait découvrir ton secret, le médecin. D'ailleurs, Marie ne fait jamais de prise de sang, son taux de gamma GT la trahirait. Elle a peur qu'on voit qui elle est vraiment à l'intérieur. Enfin, ce qu'elle croit être vraiment. Elle se hait d'être si fragile. Quand Marie garde ses petits-enfants, elle a hâte qu'ils repartent le dimanche soir. Elle a hâte et elle a honte d'avoir hâte. Elle les aime pourtant, mais quand ils s'en iront, elle pourra continuer de se saouler, mais sans se cacher. Marie est dans l'alcool, comme le moucheron dans la toile. Elle n'en peut plus de se débattre. Alors elle dit à sa fille de ne plus lui amener les petites. Car Marie a peur d'avoir un accident de voiture. T'as tellement honte que tu préfères renoncer à ta propre famille, hein Marie, à tes petites-filles. Marie s'entoure de femmes qui ont le même problème pour se déculpabiliser, se sentir moins seule. Même si elle sait la vérité, Marie, on peut être plusieurs dans une solitude immense. Le temps passe. Parfois, Marie ne dessoule pas pendant des jours. Un matin, Marie n'a plus de mari. Son amoureux est parti. Elle ne parle plus à sa fille. Avant, Marie avait une maison, mais elle a oublié. Elle a perdu son adresse, elle a oublié son chemin. Marie est à la rue, Marie a froid, elle a faim, elle est violente. Marie crève. Marie pourrait être notre sœur, notre mère, notre tante, notre collègue, notre voisine. Marie n'existe pas, je ne l'ai jamais rencontrée. Ou plutôt si, elle existe. Et elle existe trop, mais on ne le sait pas parce que c'est tabou, ça, en France, l'alcoolisme féminin. Sachez-le, les maris, elles sont 500 000 en France. Alors j'en ai probablement souvent rencontré sans le savoir, comme vous. La romancière Cathy Gallieck, dans son dernier roman qui s'intitule « Et boire ma vie jusqu'à l'oubli », pose ces mots dans la bouche de son héroïne. « J'attends la nuit ». Je cherche une porte cochère pour m'y rouler en boule et boire avec dégoût, m'essuyant la bouche du dos de la main entre deux gorgées. Je tends aux passants qui oseraient tourner la tête vers moi le regard de la mort. Je ne suis plus rien, coiffé, maquillé, debout, mais plus rien, et personne ne le sait. Je parle de ce roman parce qu'il aborde le sujet tabou de l'alcoolisme féminin et qu'il le fait avec délicatesse et beaucoup de justesse. Il sort la poussière de sous le tapis, comme on dit. J'ai contacté la romancière ce week-end et je lui ai demandé pourquoi elle avait écrit ce très, très beau roman. Elle m'a répondu ces mots bouleversants. L'alcool a mangé mon enfance. Ma mari à moi s'appelait maman et nous ne nous parlons plus depuis 10 ans. Alors j'ai écrit pour que les femmes concernées comme ma mère puissent parler et qui sait, peut-être même reparler à leur fille. Cathy Galliègue a écrit et moi, aujourd'hui je parle pour toutes les maris qui nous écoutent et leurs familles pour leur dire qu'elles ne sont pas seules.
La chronique « Alors voilà » de Baptiste Beaulieu, à voir en vidéo sur la page Facebook de France Inter et sur votre blog. Alors voilà, allez, dans un instant, vous saurez pourquoi les spermatozoïdes qui tournent toujours à droite sont responsables en partie d'une reproduction humaine pas très efficace. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. De montagne interprétée, pourquoi pas.
Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse, sur France Inter.
Les enfants, si l'érection ne se fait pas, tout va être foutu.
Reprenez érection, tout système en alerte.
La boîte, mon Dieu, c'est beau tout ça, faut l'enlever.
Eh ben alors, qu'est-ce que vous branlez? Ça vient l'érection?
Très bien que le cerveau mette un peu la main à la pompe. Vous êtes sûr que tout se passe bien côté estomac?
Tout va au poil dans l'estomac.
Ah, cette calotte de veau ne me semble pas catholique.
Oh, mais enfin, Sidney, qu'est-ce qu'il y a? Décidez-vous. Oh, viens, embrasse-moi. Oh.
L'angle d'érection est presque à 45 degrés.
On fait une tentative de pénétration.
Préparez la pénétration.
Bon, les enfants, je crois que ça y est.
Ça fait comment, quand on arrive?
On te l'a dit 100 fois à l'école, tu rencontreras des ovules.
J'ai peur, les gars. Je veux pas y aller.
T'as pourtant suivi régulièrement l'entraînement.
Oui, mais j'ai la trouille. Je veux pas sauter dans le noir.
Un extrait de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander de Woody Allen. À 10h47, on explore quelques bizarreries et défauts de conception du corps humain avec le biologiste américain Nathan Lenz et le médecin évolutionniste Luc Perrineau. Nathan Lenz, vous nous rappelez dans votre livre passionnant que la reproduction humaine est très inefficace par rapport à d'autres espèces animales et qu'il est même presque miraculeux que l'humanité ait réussi à prospérer avec des, comment dire, un mode de reproduction aussi peu talentueux.
Yes, we have inefficiencies in our reproductive system.
Notre système reproducteur n'est pas du tout efficace, et ce, aux différentes étapes, que ce soit la puberté, la création de spermatozoïdes et d'ovocytes. Et je pense que le principal problème, c'est que la majorité des ovocytes fertilisés, en fait, se décollent de la paroi utérine, échouent à s'y agripper, moins de 50%. Ça, c'est le taux d'implantation. Et ça, ce n'est qu'une étape dans le processus. Il y a d'autres inefficacités tout au long de ce processus de reproduction. Et généralement, on pense que cela permet de contrôler la population, mais ça, ça a du sens aujourd'hui quand nous sommes 7 milliards. Mais il y a des millions d'années, au balbutiement de notre espèce, nous étions constamment au bord de l'extinction. Pourquoi ? Car nous avions du mal à nous reproduire rapidement.
Par exemple, pourquoi le fait que les spermatozoïdes tournent toujours à droite est un frein à la reproduction? Expliquez-nous. Des spermatozoïdes qui se déplacent en tire-bouchon et ont tendance à effectuer des cercles vers la droite selon une trajectoire aléatoire. Pourquoi c'est un frein à la reproduction?
Well, I mean, if you think about it, sperm, like all men, prefer to move around aimlessly, without direction. Comme
les hommes aiment beaucoup avancer de manière aléatoire, sans but, et on refuse de demander notre chemin. Ce qui peut sembler être un trajet assez court à notre échelle est une distance gigantesque que doit parcourir le spermatozoïde du point de départ jusqu'à l'arrivée. Et lorsque vous vous déplacez de manière aléatoire, il y a de la poussière partout. Imaginez-vous dans une salle remplie de poussière. Très peu de spermatozoïdes parviennent à bon port, car ils ont tendance à se déplacer sans but dans le vagin. Ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne suivent pas un trajet ou un autre, et il est impossible de savoir où est le point d'arrivée, s'il y a un point d'arrivée. Dès lors que vous parvenez à l'ovocyte, il reste très peu de spermatozoïdes. Voilà pourquoi nous avons besoin, à chaque éjaculation, de centaines de millions de spermatozoïdes pour qu'il y ait une possibilité de procréation, de conception. Donc lorsque l'on dit qu'il y a des hommes qui produisent peu de sperme, c'est par exemple 100 millions de spermatozoïdes. 100 millions de spermatozoïdes, ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin de 2, 3, 400 millions de spermatozoïdes pour que l'un de ces spermatozoïdes réussisse, car il nage de manière aléatoire.
Et oui, si je vous comprends bien, beaucoup de temps perdu à nager dans tous les sens, au hasard, pour couvrir une courte distance jusqu'aux trompes de Fallope. Luc Perrineau.
Je veux pas faire politique, hein, mais s'il tournait toujours à gauche, ce serait le même résultat. Ce serait le même résultat. Ce serait toujours aléatoire. Pour faire comprendre le système de la reproduction, je voudrais faire un peu le professeur. Il y a deux grands procédés de reproduction dans le monde vivant. Soit vous faites beaucoup d'enfants, hein, c'est le cas des tortues qui vont pondre des centaines ou des milliers d'œufs. Il y en a seulement 1 ou 2% qui vont arriver vivants jusqu'à la mer. Donc la stratégie, c'est la stratégie, je fais beaucoup d'œufs, il y en a peu qui survivront. Et vous avez la stratégie opposée schématiquement, il y a bien sûr tous les intermédiaires, mais la stratégie opposée schématiquement, c'est de faire très peu d'enfants, mais de les protéger à l'extrême pour qu'ils survivent.
Comme chez les humains.
C'est le cas, on va dire, des mammifères en gros. Et tout ça, c'est le résultat de la socialisation.
C'est-à-dire ?
Voilà, quand vous avez une socialisation, les gens d'abord commencent par, les parents commencent par s'occuper socialement de leur enfant, donc ils forment une société, et il y a une entraide dans le groupe. Le cas extrême, c'est la socialisation, la reproduction des abeilles, elle est très mauvaise, il n'y en a qu'une qui est fertile, mais ça marche très bien parce que la socialisation est extrême. Donc il faut bien opposer les deux, soit beaucoup d'enfants sans socialisation, soit très peu avec une grande socialisation.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Mais en fait, c'est des effets indésirables qui sont réjouissants, parce que quand on voit qu'on a beaucoup d'imperfections, comme notamment le métabolisme, où on ne peut pas en fait synthétiser certains éléments vitaux, mais on va devenir du coup omnivore et gastronome. Donc je trouve que c'est très très bien ces erreurs et ces imperfections, ça nous donne de la créativité et on peut être sociable, on peut être gastronome. Du coup, c'est un avantage.
Ah ben s'il n'y avait pas d'erreur, ce serait particulièrement triste la vie. Imaginez une vie de robot qui ferait jamais d'erreur. Quelle catastrophe.
Nathan Lenz, pourquoi l'ovulation féminine est-elle discrète? Pour quelle raison?
Il y a un certain nombre d'idées. Celle qui a le plus de sens, selon moi, est la suivante. Lorsqu'une femme ne sait pas lorsqu'elle est féconde, les hommes ne le savent pas non plus, d'ailleurs, bien entendu. La seule manière de réussir, c'est de copuler régulièrement toute l'année. Et donc, cela favorise le fait de tisser des liens. Donc, je pense que c'est clé pour la famille, l'ovulation cachée. Cela permet d'avoir de la stabilité et les enfants, les parents investissent dans leurs enfants. Et comme l'a très bien dit le médecin, nous prenons soin de nos enfants et cela fait partie de la structure sociale. Et cela montre que l'évolution tire parti du bon moment, du bon endroit pour telle ou telle caractéristique. Donc nous sommes nés de manière bien trop prématurée, avec des cerveaux démesurés, mais fort heureusement, il y a une famille qui nous attend à notre naissance pour prendre soin de nous. Car les enfants, en raison de cette naissance prématurée, sont impuissants par rapport aux autres mammifères. Nous dépendons de nos parents pendant 35 ans à peu près.
Nathan Lenz, un chapitre de votre livre est consacré au génome humain et vous pointez du doigt tout ce matériel génétique inutilisé. Expliquez-nous.
Nous avons de l'ADN poubelle, comme nous l'appelons. Nous ne savons pas toujours quels gènes fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Mais ceux qui me paraissent les plus intéressants, ce sont les gènes défaillants. Donc nous avons deux fois plus de gènes défaillants que de gènes qui fonctionnent dans notre génome. La plupart de ces gènes fonctionnaient chez nos ancêtres, ils ont muté. Alors, bien entendu, ils n'étaient pas très importants, faute de quoi ils fonctionneraient encore, ou bien l'évolution n'aurait pas permis cette mutation qui les a rendus défaillants. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons encore ce sac à dos rempli d'ADN poubelle. Et la plupart de ces gènes ont tellement muté qu'ils ne pourront plus fonctionner. On ne peut pas les réactiver. Et pourtant, nous les avons encore sur nous. Et nous avons tendance à les copier en dépit des erreurs qui ont été commises. Et nous les transmettons à nos enfants. Et ces gènes s'accumulent dans notre génome. L'autre chose qui est intéressante quant à cette ADN poubelle, c'est que nous avons la carcasse sans vie d'infections virales. Lorsqu'il y a une infection virale, lorsqu'un virus infecte, eh bien, ce virus est intégré dans notre ADN, dans nos chromosomes. Et comme nous l'avons vu, certains s'intègrent de manière permanente et nous continuons de les transporter jusqu'à aujourd'hui. Nous copions cet ADN, nous le vérifions, alors même que c'est un virus mort. Donc, essayez d'imaginer, si notre génome, c'est comme une voiture, eh bien, nos génomes ressemblent à une fourrière pour voiture.
Luc Perrineau.
Intéressant, les endovirus. Ce qu'on appelle les endovirus, c'est des virus qui ont infecté donc notre ADN dans l'histoire de l'évolution. Et il faut savoir, c'est grâce à un je vais donner deux exemples simplement. C'est grâce à un endovirus que nous avons eu la vision en couleur, et grâce à un autre endovirus que le placenta est apparu chez les mammifères. Et le placenta, c'est quand même très utile, comme vous le savez.
On va terminer avec une question d'Élise sur notre page Facebook qui nous demande si la plupart de ces bizarreries, malfaçons du corps humain, si c'est pas dû à une mauvaise utilisation de notre corps, comme la sédentarité ou une mauvaise alimentation. Nathan Lenz.
That's exactly right. There are three categories of flaws. Il y a trois catégories de défauts que j'évoque dans mon livre. Et l'une de ces catégories, c'est ce que l'on appelle l'inadéquation, c'est-à-dire que notre corps est utilisé aujourd'hui de manière tout à fait différente par rapport à la manière dont nous l'utilisions il y a des millions d'années dans la forêt vierge et dans les savanes d'Afrique. Donc nous ne pouvons pas pointer du doigt les problèmes de conception uniquement. Le fait est que nous ne vivons pas comme nous vivions il y a des millions d'années, tout à fait. Et bon, je regarde dans la salle où nous sommes et je vois autour de la table un certain nombre de personnes qui font quelque chose qui n'est pas du tout en harmonie avec l'évolution. Nous sommes assis dans une chaise. Les chaises n'ont jamais fait partie de l'évolution. Plus vous passez de temps assis, plus vous serez en mauvaise santé.
Si je comprends bien, beaucoup de problèmes que nous rencontrons avec notre corps sont imputables aux nombreuses différences entre l'environnement de nos ancêtres préhistoriques et nos modes de vie modernes, avec à la clé l'apparition de nombreuses pathologies comme l'obésité, l'athérosclérose, le diabète de type 2, Luc Perrineau.
Oui, il faut dire, tout ceci est très vrai, mais il faut dire que les possibilités d'évolution sont extraordinairement rapides parfois. Prenons l'exemple, vous avez parlé de l'obésité, je vais rebondir là-dessus. Prenons l'exemple du sucre. On consommait en gros 7 kilos de sucre par an et par personne au Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est 70 kilos à peu près, et jusqu'à 100 aux États-Unis. La question qu'il faut se poser, c'est pas pourquoi il y a des obèses, c'est pourquoi il y en a si peu. Si nous n'avons que 15% d'obèses, ça veut dire qu'il y en a 85% qui sont adaptés à cet excès de sucre. Donc il y a quand même une adaptation rapide par d'autres processus que les processus génétiques.
Nathan Lenz.
The doctor is absolutely correct, and I
think that sugar really is the worst part of our diet. Je pense que le sucre, c'est le pire ingrédient de notre régime alimentaire. Avant l'avènement de l'agriculture, il y a 10 000 ans, il y a 15 000 ans à peu près, le sucre était une partie extrêmement infime de notre régime alimentaire. Et nous avons commencé à cultiver la terre et à cultiver certaines plantes et nous les avons sélectionnées afin que les fruits, davantage de fruits, afin qu'ils soient plus juteux et nous avons commencé à manger des féculents, du sucre. Cela fait partie de notre régime alimentaire alors que ce n'était pas le cas avant.
Nathan Lenz, rapidement, quelle serait pour vous la preuve ultime de notre mauvaise conception? Peut-être notre capacité à nous autodétruire?
Oui, je pense que nous aurons bientôt une réponse à cette question au cours de ce siècle. Je dis souvent que soit nous allons résoudre nos problèmes, ou bien nos problèmes s'occuperont de nous. En tout cas, le monde continuera à exister.
Merci beaucoup, Nathan Lenz. Je recommande vraiment votre livre « Les spermatozoïdes tournent toujours à droite et autres bizarreries du corps humain », c'est chez Larousse. Luc Perrineau, vous reviendrez parce que votre livre « Darwin et les sciences de l'évolution pour les nuls » est absolument passionnant. Merci d'être venu ce matin. Demain, on se demande comment surmonter nos complexe physique. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Mal Vous Fasse. À suivre Nagui et sa bande originale.